Je suis dans le bureau d'Amélie Nothomb, aux éditions Albin Michel. Bureau bien éclairé, lumineux. Dès qu'on rentre, on tombe sur votre bureau. Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour.
Merci infiniment de me recevoir. Nous parlons de votre dernier livre, La nostalgie heureuse. Ce livre, il débute dans ce bureau, les 15 premières pages de La nostalgie heureuse. Vous êtes, j'imagine, assise
oui.
là. Vous avez
Absolument.
Le téléphone sur votre gauche
oui.
que vous avez eu l'élégance de débrancher. Et vous êtes installée là et vous commencez par...
Une recherche téléphonique.
Une recherche téléphonique en direction du Japon. Expliquez-nous
oui.
un petit peu
Donc,
ce début.
C'est-à-dire que je me suis laissée piéger par un documentaire. Une équipe de télévision m'a proposé de faire un tournage sur moi retournant au Japon. Et moi, j'accepte parce que je me dis que jamais cette équipe de télévision ne trouvera le financement pour un projet qui risque si peu d'intéresser les gens. Et puis, suprême malchance, voilà que l'émission trouve tout de suite un financement. Et comme j'ai donné mon accord, il faut bien que je m'y mette. Donc, je dois retrouver les adresses que j'ai perdues au Japon. Bon, ça tombe bien, j'avais quand même gardé le numéro de téléphone de ma nounou. Donc, c'est grâce à ce téléphone que j'ai pu aussitôt appeler ma nounou. Et je vous assure que ça fait de l'effet de son bureau parisien d'appeler sa vieille nounou de Kobe, que je n'avais tout simplement, à qui je n'avais plus parlé depuis le 18 janvier 1995, c'est-à-dire le lendemain du tremblement de terre de Kobe.
Et cette, la manière dont vous relatez cette conversation avec votre nourrice,
oui.
C'est pas vraiment de la conversation, c'est rempli de quiproquos.
C'est rempli de quiproquos parce que je crois lui parler japonais, mais mon japonais, que je n'ai plus pratiqué depuis un nombre remarquable d'années, a considérablement rouillé. Donc, quand je lui demande si je peux venir chez elle en étant filmée par la télévision, en vérité, ce que je dis, c'est quelque chose comme « Est-ce que je peux venir regarder la télévision avec toi ?» Et elle me dit « Mais bien sûr que tu peux venir regarder la télévision avec moi. » Donc, mais de fil en aiguille, on se comprend. Elle est toujours aussi adorable, aussi gentille. C'est très émouvant de l'entendre. Et là, enhardie par ce premier coup de fil qui s'est bien passé, je me dis « Faisons donc, établissons le deuxième contact, celui avec le fiancé de jadis. » Mais là, c'est beaucoup plus difficile parce que j'ai égaré, volontairement sans doute, les coordonnées du jeune homme, vu que je m'étais assez mal conduite avec lui il y a 20 ans, je m'étais enfuie. Donc, je n'ai d'autre choix que de recourir aux renseignements internationaux.
Et là, à nouveau, c'est cocasse, c'est fantaisiste. Il n'y a qu'à vous que pourrait arriver cette réponse des renseignements, comme quoi il n'y a pas d'ambassade de Belgique
à Tokyo.
À Tokyo, c'est incroyable.
Donc, je m'y reprends à plusieurs reprises. Et finalement, presque par hasard, je retrouve les coordonnées du jeune homme, qui entre-temps est un homme fait, qui dirige une école de joaillerie à Tokyo. J'appelle l'école, je demande à parler au PDG. On me demande si je me prends pour la reine d'Angleterre. Et puis je dis non, je suis seulement sa petite amie de jadis. Et chose extraordinaire, exactement 5 secondes plus tard, il me prend en ligne, et en un français parfait. Et la conversation reprend 20 ans après, comme si nous ne nous étions jamais quittés.
Est-ce que vous aviez enregistré ces conversations
pas
téléphoniques ? Donc c'est de mémoire que vous les retranscrivez ?
Vous savez, la grande condition de la mémoire, c'est de n'avoir aucun support, aucun autre support que la mémoire. Ni support papier, ni support audio. Dès qu'on prend des notes, et pire, dès qu'on enregistre, c'est la mort de la mémoire. Alors je devine que pour vous c'est paradoxal puisque c'est votre matériau.
Et alors quelque chose m'a interrogé tout de suite, vous épelez le nom de Rinri, votre grand amour de jeunesse, et pour épeler, bah, vous essayez, on fait le R2,
oui.
R de Roméo, ça aurait pu être.
Oui.
Mais non, vous c'est R de Rocinante.
Ben oui.
Et alors Rocinante, c'est tout de même le cheval de Don Quichotte,
oui.
Vous le faites exprès, vous êtes fine lettrée. R de Rocinante, mais Rocinante n'est pas seulement un beau cheval de Don Quichotte. Rocinante est une rosse
ben
d'un
oui, c'est
vieux cheval.
Mais
et
oui,
la
mais...
première lettre de votre amoureux de jeunesse est Rocinante.
Mais oui, mais dans ma bouche, c'est très flatteur. Parce que d'abord, Don Quichotte est mon roman favori. Et Rocinante, c'est une créature extraordinaire. Parce que Don Quichotte voit son cheval comme un somptueux destrier. Alors que Rocinante, comme son nom l'indique, est une vieille rosse. C'est un gros cheval de labour. Et j'adore cette idée, justement, la littérature peut tout transposer. Pour autant, n'allez pas imaginer qu'en vérité, Rinri est un gros sumo que j'ai idéalisé pour en faire un fin héros de roman. Il est réellement aussi charmant que je le décris.
Parce que j'ai retrouvé un petit descriptif de Rossinante quand même pour que
Oui.
l'auditeur se baigne bien dans ce que c'est que Rossinante. Long, raide, maigre, desséché, l'épine dorsale saillante et si désespérément étique qu'il t'est manifeste que son nom lui allait comme un gant. Rosse et lente en
Oui,
fait.
oui.
Et alors ça m'a fait bizarre de trouver, parce que c'est truffé de références littéraires, votre livre, La Nostalgie Heureuse, Amélie Nothomb. Et voilà, le R de Rossinant, je me suis dit, il y a un jeu, il y
Mais
a un amusement.
pas du tout, c'était même pas fait exprès. C'est vrai que quand je dois épeler les noms au téléphone, c'est toujours des mots incongrus qui me viennent à l'esprit et je sens que ça ne me vaut aucune sympathie de l'autre côté du téléphone.
Et alors, ces premières pages où vous êtes dans votre bureau, le lecteur, quasiment tous les lecteurs, ont lu plusieurs de vos livres auparavant. Il y a une connivence qui s'est faite, c'est-à-dire que le lecteur vous prend à un moment de votre vie et connaît déjà des morceaux de passé de votre vie que vous avez bien voulu révéler dans vos romans. Cette connivence, vous la travaillez, j'ai l'impression, particulièrement dans La Nostalgie Heureuse, et notamment dans ce début-là, vous installez une connivence, mais j'ai envie de dire à bon escient. C'est vraiment étudié et c'est peut-être vu comme un procédé littéraire.
Je ne dirais pas les choses comme ça. Ce qui est vrai, c'est que j'ai noué de telles relations d'amitié avec une grande partie de mes lecteurs depuis plus de 20 ans que je suis en situation d'amitié avec eux. Et je crois que c'est pour ça que je me sens autorisée à arriver à un tel degré de confidence avec eux. Et dans l'immense majorité des cas, ça fonctionne parce que vraiment, comme ils sont des amis, la confidence est très bien prise. Mais je dois aussi préciser plusieurs cas pour la nostalgie heureuse de lecteurs vierges, de lecteurs qui n'avaient jamais lu aucun de mes livres auparavant et qui ont commencé à me lire par la nostalgie heureuse, eh bien ça fonctionnait complètement aussi. Donc c'est un miracle que je ne m'explique pas, même pour des inconnus, la confidence fonctionne.
Mais n'aviez-vous pas envie de jouer dans ce livre-là avec votre personnage public qui fait presque partie intégrante aussi de votre littérature?
C'est une chose que je ne fais absolument jamais. Je sais que cette image publique existe parce que je n'y peux rien, parce que c'est une fatalité de la célébrité, mais ce n'est pas du tout une chose que j'ai créée volontairement, ni avec laquelle je joue. Je considère ça comme une fatalité pas dérangeante, mais ce n'est certainement pas un procédé dont j'ai envie de me servir.
D'accord, vous n'en servez pas de manière,
Voilà, non.
mais ça peut être, enfin, ça peut, je le vois plutôt à bon escient, c'est-à-dire comme une manière d'être inventif dans la littérature en étant également aussi un personnage public, c'est-à-dire très loin de cette image blanchotienne de l'écrivain qui doit absolument être retiré
Ça...
et être éloigné de tout média. C'est pas du
Oui,
tout dans un but péjoratif ma
Ah,
question
mais
du
je
coup
l'avais
là-dessus.
bien
Ça peut être
compris.
vraiment
Oui.
un procédé littéraire qui pourrait être proche de l'autofiction, mais sans ce côté qui peut être un peu graveleux, parce que vous, c'est pas du tout votre
Oui.
propos dans votre livre.
J'ai pas l'impression que ce soit aussi étudié que ça de ma part. Bon, vous avez tout à fait raison de dire que je me situe très loin de la figure blanchotienne de l'écrivain, mais là encore, pour moi, c'est terriblement naturel. Personnellement, je ne me suis jamais divisée ni en une personne, d'une part l'être humain, d'autre part l'écrivain, d'autre part la personne publique. Je peux comprendre, j'imagine, je n'en sais rien, mais j'imagine que de vue de l'extérieur, je peux donner cette impression. Mais moi qui vis les choses de l'intérieur, je n'ai aucune sensation de dédoublement. Mais c'est peut-être là, de ma part, je ne sais pas, une forme de manque de lucidité absolue.
Mais c'est au contraire un aspect positif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas roublarde dans
Ah non,
votre
ça c'est certain, je
littérature,
suis pas roublarde.
vous êtes d'une grande honnêteté. On a parlé de l'image de Blanchot, par exemple.
Oui.
Lui, c'était pour une forme d'intégrité, mais cette forme d'intégrité, il m'est avis que vous l'avez tout à fait également en étant un personnage public.
Je pense qu'il y a plusieurs sortes d'intégrité, et si bien sûr l'intégrité blanchotienne est absolue, la mienne, à ma façon, l'est aussi. Je suis un personnage que presque tout le monde reconnaît dans la rue. Ça ne me pose aucun problème. Donc, en même temps, c'est un peu difficile parce que je dois assumer ça tout le temps, mais j'ai décidé que c'était pas un problème pour moi.
On va revenir sur cette première scène dans La Nostalgie Heureuse. Votre titre est fort.
Oui.
C'est un concept psychologique qui peut nous paraître un peu obscur à nous français. C'est quelque chose qui vous vient du Japon et qui pourrait être résumé dans cette scène. Une fois que vous avez d'abord appelé, vous décrivez que vous avez d'abord appelé Rinri, votre amant de jeunesse, ensuite votre nourrice, et une fois que vous avez terminé cette conversation remplie de quiproquos avec votre nourrice, vous écrivez « Je raccrochais et me pris le visage dans les mains ». Là, on peut imaginer, pourquoi pas des larmes, ou juste un peu de fatigue ou de soulagement d'avoir réussi à faire. Parce que dans cette scène, j'ai l'impression qu'il y a tout votre livre et la description de ce que pourrait être, de ce que vous a fait ressentir ce concept de nostalgie, mais heureuse.
Mais vous avez raison, tout le livre est déjà en germe dans cette scène, avec toute la prise de risque que supposent des retrouvailles, même par téléphone, et tout le soulagement et l'émotion que l'on peut éprouver quand ça ne se passe pas mal.
Et puis, ça commence par cette première phrase forte, tout ce que l'on aime devient une fiction. Et nous allons travailler sur cette phrase, parce que oui. C'est pas une phrase seulement qui pourrait être un peu énigmatique. Là aussi, il y a une sorte de résumé du livre, ou de ce que peut faire le livre, tout ce que l'on aime devient une fiction, parce que il y a à la fois dans ce titre-là la nostalgie heureuse, cette nostalgie qui pourrait être méprisée en Occident.
Oui.
Qui, la nostalgie en Occident, ou en France en tout cas, est considérée comme une valeur passéiste.
Oui.
Et ça, vous en parlez un petit peu. Et puis à la fois le fait que vous n'êtes pas certaine d'exister.
Oui.
Vous parlez de ce problème, que vous n'êtes pas certaine d'exister et que vous cherchez des preuves de votre existence.
Oui.
Et vous dites, en première phrase, tout ce que l'on aime devient une fiction.
Oui, tout cela est bien compliqué. En tout cas, ça me permet de donner une réponse à tous ceux qui me disent que ce que j'écris, ce ne sont pas des romans, sous prétexte que je pratique souvent l'écriture autobiographique, ce qui est le cas ici. On me dit, mais comment pouvez-vous prétendre que ce que vous écrivez est un roman, alors que d'évidence tout cela est vrai, ou alors vous avez menti sur tout. Je dis, non, j'ai menti sur rien, et cependant je revendique l'appellation de roman, parce que pour moi, il y a roman dès qu'il y a langage, et dès qu'il y a liberté. Pour moi, l'axe roman-récit, pour moi, il y a roman dès qu'il y a création verbale. Et il y a certainement création verbale ici. Je m'attache à la définition étymologique du roman. Roman, ça signifie écrit en langue vulgaire. Là, je pense qu'on y est à fond. Je pratique l'écriture gueuse, c'est donc l'écriture libre par opposition au genre aristocratique, la poésie. Donc, pour moi, je mérite totalement l'appellation de roman. Et pour autant, c'est de la fiction, parce qu'il s'agit ici des sujets que j'aime le plus au monde, le Japon, quelques personnes que j'ai aimées jadis, avec en plus cet élément d'éloignement temporel qui plonge tout ça dans la légende. Donc comment ne pas installer de la fiction, même en restant au plus véridique possible. La fiction n'est pas intentionnelle, mais même en restant au plus véridique possible, tout de suite la cathédrale de la fiction se bâtit, parce qu'il s'agit de réalités qu'on aime tellement, qu'on a tellement aimées.
Une fiction avec quand même un dispositif.
Oui.
Vous ne parlez pas seulement de votre voyage, de ce retour au Japon,
oui.
Vous parlez du documentaire qui
c'est
est fait
ça.
Sur vous, sur votre
oui.
Retour au Japon. C'est-à-dire qu'il y a une
oui.
Couche supplémentaire.
Il y a une couche supplémentaire qui est
vraiment intéressante là, du coup. C'est,
oui.
Voilà, vous ne parlez pas juste de votre voyage,
non.
Mais c'est à travers
c'est ça.
Le documentaire. Et quand on vous trouve dans votre bureau, c'est
oui.
Pour travailler à cette fin de documentaire
oui. Oui.
Sur vous, pour essayer quand même de l'alimenter, ce documentaire.
Oui.
Bien que vous alliez voir des personnes, que vous rencontrez
c'est
des personnes au Japon. Mais en même temps, ce voyage au Japon, ce retour au Japon, c'est ce que vous expliquez dans La Nostalgie Heureuse, vous sert pour bien vérifier que vous avez existé au
c'est
Japon.
C'est ça.
Vous cherchez
exactement.
Des éléments de preuve. Ça, c'est une question métaphysique. Hein.
C'est de la métaphysique pure. Je souffre d'une grave pathologie. Je ne suis pas sûre d'exister. Rien ne me rassure. Me toucher physiquement ne me rassure pas du tout. Le fait d'être reconnue par les gens ne me rassure pas non plus. Donc, finalement, qu'est-ce qui est rassurant quand on souffre de ce genre d'angoisse, c'est d'aller, de se pencher vers son passé et de trouver dans le passé des preuves de mon existence. Parce que si je peux prouver que j'ai existé au Japon avant l'âge de 5 ans et que j'ai existé au Japon de 21 à 23 ans, là, j'ai quand même de solides éléments. Tout ce passé est devenu si mythique pour moi. Si je peux prouver que ce passé-là a existé, que je ne l'ai pas inventé dans mon délire, je peux peut-être conforter mon existence présente.
C'est à ça que sert le voyage, mais c'est aussi à ça que sert l'utilisation de la fiction et du roman. Peut-être, non ?
Oui, mais tout c'est terrible parce que c'est un double mécanisme. Vu que le roman m'aide, certainement, l'écriture m'aide. Il y a cette phrase de Virginia Woolf, « Il ne s'est rien passé aussi longtemps qu'on ne l'a pas écrit ». Donc, écrire me sert à donner de la réalité à tout ça, à attester le réel de tout ça. Et en même temps, ça c'est dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, quand le texte a par exemple été écrit depuis un certain nombre d'années, cette écriture justement prolonge le doute, parce que c'est devenu un texte écrit. Je me dis, mais voilà, c'est encore une de tes fictions. Au moment où tu l'as écrit, tu y étais à fond. Mais de toute façon, tu y es à fond quoi que tu écrives, que ce que tu écrives soit de la fiction ou de l'autobiographie. Alors, quelle preuve as-tu encore que tout ceci soit réel ? Donc, c'est un processus très fragilisant, finalement. Le processus d'écriture me calme dans un premier temps parce qu'il donne de la réalité à tout ça. Et je me dis, là, je construis quelque chose. Désormais, tout ceci sera sûr. Mais ce n'est pas exact, parce que dans un deuxième temps, au contraire, tout ceci va apporter même de la fragilité à mon témoignage. Donc finalement, je travaille à me détruire. C'est tout à fait idiot ce que je fais.
Et vous mettez même en doute des souvenirs qui vous reviennent. J'ai le cas de cette rencontre avec un caniveau.
Oui.
Mais parce que c'est tout à fait... C'est à la fois cocasse, mais en même temps, c'est d'une grande beauté et d'une subtilité. Et soudain, écrivez-vous, je tombe en pamoiseau. En pamoison, le mot n'est pas trop fort. Pourquoi ai-je mis tant de temps à remarquer le caniveau ? C'est lui et aucun autre. Un peu plus loin, vous écrivez, l'équipe me rattrape, la voix étranglée par l'émotion, je balbutie, les caniveaux et les égouts n'ont pas changé. Et vous terminez, cette déclaration grandiose ne provoque aucune réaction. Oui, on s'en doute. Oui. L'atonie polie de mes accompagnateurs signifie que j'ai dit une chose dénuée d'intérêt et je comprends que le sentiment le plus violent, le plus profond, le plus vrai éprouvé en cette matinée de pèlerinage est tout simplement vide de sens. Mais vide de sens à la fois pour les personnes qui vous entourent, pour les reportages, et aussi vide de sens pour vous, parce que ce n'est pas une preuve suffisante, parce que c'est une preuve qui fait appel à votre mémoire.
C'est ça. Je ne m'attendais pas à cette preuve. Je n'avais pas de souvenir conscient de ce caniveau. Et le quartier a terriblement changé à cause de la modernisation, à cause surtout du tremblement de terre. Et puis voilà que tout à coup, mes yeux se tombent sur le caniveau, et là, le caniveau est miraculeusement le même. À l'odeur près, enfin, tout le caniveau dans lequel j'ai tellement joué petite, je le reconnais, mais trait pour trait, et même je cours le long du caniveau pour voir jusqu'où je le reconnais, et je le reconnais jusqu'au moment où il tombe dans les égouts, ce qui est un parcours remarquable. Donc, alors, quelle preuve ! Mais cette preuve n'est pas valable, puisqu'il ne parle à personne. Alors... tout ceci me confirme dans l'idée que je ne suis pas une personne crédible.
Mais vous allez la trouver, cette preuve. Une preuve certaine, une photographie.
Oui.
Quelques pages plus loin, vous arrivez dans votre école maternelle.
Oui.
Et là, enfin, ça y est, la grande preuve de votre existence. Puis ça peut pas être autre chose. Vous tombez sur une photographie de...
La photo de classe, la fameuse photo de classe.
Vous vous reconnaissez, vous écrivez « Voir cette photo me sauve ». Je ne savais pas que j'avais tant besoin de cette preuve. Au fil du temps, je m'étais laissé envahir d'un si profond sentiment d'irréalité que j'en étais arrivé à croire avoir inventé mon passé nippon. Et là, vous avez enfin une véritable
une vraie preuve
objective.
Une vraie preuve objective, parce que c'est même pas un être humain, c'est une trace d'un être humain de 1971, quoi, alors que ça peut pas être truqué. Donc, c'est extraordinaire. Là, je suis sauvée par cet objet qui ne peut pas mentir, qui ne peut pas résulter d'une manipulation.
Puisque c'est encore mieux que le fait que votre nourrice vous reconnaisse. Parce que même là, vous aviez encore un soupçon. Vous écrivez, certes, Nishio-san, le prénom de votre nourrice, m'avait identifié, mais la suspicion que je nourris envers moi-même est si grave que cela n'avait pas suffi à me rassurer.
Oui, parce que Nishio-san est un être humain, elle est quand même faillible, puis c'est une très vieille dame. C'est quand même... C'est presque trop émouvant et trop émue. Elle est une vieille dame bouleversée. Elle pourrait avoir tellement besoin d'un souvenir de jeunesse, d'autant plus que ses enfants l'ont abandonnée. Donc là, elle tombe sur une femme pas trop vieille qui lui dit qu'elle pourrait être sa fille. Mais je suis presque un personnage providentiel pour elle, puisqu'elle n'a plus de fille. Donc elle pourrait décider, comme support sentimental, que je serais sa fille. Tandis que la photo, bah, la photo, c'est rien que du papier imprimé en 1971. Ça peut pas être trompeur.
Et là, ça vous fait un choc métaphysique, cette photo. Ça me fait un choc métaphysique. Parce qu'on est dans la... Enfin, c'est un problème métaphysique.
C'est un problème métaphysique, oui. Tandis que là, la photo de classe, vous avez raison, c'est du solide. Et en plus, j'ai cette double preuve de la caméra du documentaire qui, pendant ce temps-là, filme notre trouvaille, ma découverte, mon tête-à-tête avec la photo de classe. Donc là, je suis bardée de preuves et ça fait beaucoup de bien.
Oui, au niveau du dispositif de votre livre, là, oui. ça fonctionne très très bien. Recherche oui. de preuves, vous l'avez et en plus vous êtes oui. filmé et vous pouvez parler de tout ça dans votre roman.
Oui, oui, en effet.
Très bien. J'aimerais qu'on aborde maintenant votre rencontre avec Rinri. Vous discutez avec lui, ou plutôt lui discute avec vous, et à un moment oui. donné, il veut en savoir quand même plus sur vous, il vous oui. interroge, et vous lui répondez, tu as lu mes livres,
tu sais tout.
Tu sais tout.
Oui.
Quelle drôle de phrase.
Ben, oui.
Tu as lu tous mes livres, tu sais ben, tout, alors qu'on imagine oui. très bien qu'on sait tout, mais on sait rien.
Oui, mais bon, il me pose aussi la question terrible, qu'est-ce qui t'est arrivé depuis 20 ans? Comment répondre à une question pareille? D'autre part, c'est vrai que j'ai publié pas mal de livres. Bon, c'est vrai que la formule est abusive de dire que tu sais tout si tu as lu tous mes livres, mais je pense que qui a lu mes livres, c'est quand même beaucoup de choses. Or, Rinri est très intelligent, très fin. S'il a lu mes livres et il les a lus, je pense qu'il peut savoir beaucoup de choses.
Mais en même temps, il y a un doute. J'ai eu un doute en tant que lecteur sur cette phrase, tu as lu mes livres, tu sais tout.
Oui.
Surtout quand vous émettez cette hypothèse, toujours avec à propos de Rinri, à la réflexion, dites-vous, je comprends, dans Ni d'Ève ni d'Adam, je raconte ma version de notre liaison.
Oui.
Comment la version de Rinri ne différerait-elle pas au point que la
Bien
mienne
sûr.
Lui paraisse une fiction?
Mais bien sûr, mais ça, là, pour le coup, la littérature n'est même pas en cause. Je pense que tout témoignage humain est pareil. Je ne sais pas si, enfin, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais si on rencontre un ex d'il y a 20 ans et qu'on lui demande de raconter sa version de notre liaison, franchement, ça donne forcément un récit, mais sans aucun rapport. Et pour autant, je ne pense pas du tout que ce témoignage serait faux. C'est simplement qu'on ne retient pas les mêmes choses. C'est comme ça.
Donc, s'il a lu tous vos livres, il a quelques éléments de vous,
oui.
mais...
Mais oui, mais pas les mêmes. Mais j'ai toujours cette illusion de la transparence. Je me dis que dans mes livres, je donne beaucoup de moi et qu'il doit être possible de tout
parce
sentir
que,
à travers mes livres.
Tout ce que l'on aime devient une fiction. Donc, il y a,
oui.
aussi le doute de la fiction.
Oui. Oui. Et c'est le double mouvement que je vous disais tout à l'heure. L'écriture est là d'abord pour authentifier le réel. Dans un premier temps, elle solidifie le réel, et le réel semble enfin réel du fait qu'il a été écrit. Mais ça, c'est valable pendant une durée donnée. Et dans un deuxième temps, l'écriture elle-même semble un procédé de doute supplémentaire, parce que c'est déjà devenu une légende, donc... Comment croire à tout cela?
Merci beaucoup, Amélie Nothomb, d'avoir
Merci
répondu
infiniment.
À mes questions.